Moi, je reste convaincue que si on faisait des cours d'arbitrage dès le plus jeune âge, si tu donnais un sifflet à une petite fille, c'est lui apprendre à dire non. Non, non, non.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Hello tout le monde! Petite surprise avec un deuxième épisode en lien avec les Jeux Olympiques d'hiver. J'ai eu la chance de rencontrer la truculente Charlotte Girard-Fabre sur une thématique qui mérite beaucoup plus d'attention et d'intérêt, l'arbitrage. Charlotte a officié comme arbitre pendant des années dans un sport pas banal et pas franchement médiatisé en France, le hockey sur glace, jusqu'à devenir l'arbitre française la plus capée, hommes et femmes confondus. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un match de hockey, vous conviendrez que nous parlons là d'un sport plutôt viril. Et justement, comment cela se passe-t-il quand on est une femme dans ce monde-là et surtout quand on doit affirmer son autorité dans l'exercice de l'arbitrage? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que Charlotte en a vu de toutes les couleurs et que le sexisme et le machisme, elle connaît. Elle connaît même très bien et elle veut faire bouger les choses et faire prendre conscience des problèmes. Charlotte a d'ailleurs dénoncé des faits de violence et d'agression sexuelle au sein de sa discipline, ce qui lui a coûté sa place d'arbitre. Je ne veux pas trop vous en dévoiler car son parcours impose le respect et démontre à quel point elle possède une force de caractère hors norme. Je vous laisse avec sa personnalité haute en couleur et j'espère que vous changerez de regard, peut-être sur l'arbitrage. Salut Charlotte!
Salut Cléo!
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Enfin, ça va bien. Il y a deux minutes, tu m'as quand même dit que tu étais un peu décalé.
On est un peu décalé, on vit à l'heure de Pékin, mais à Paris. Alors ça décale vraiment.
C'est ça, parce que forcément, nous ne sommes pas du tout sur le même créneau horaire, et donc ça veut dire se lever très très tôt le matin.
Très très tôt le matin, alors c'est pas dérangeant, mais c'est que le reste de la population vit à une heure française. Et ça, c'est super dérangeant.
C'est ça, c'est que du coup, on vit en décalé, nous vivons la nuit.
On est prêt pour les 3-8, Cléo. On peut changer de métier.
C'est ça. Écoute, je suis super contente qu'on puisse échanger aujourd'hui et en plus dans le cadre des Jeux Olympiques parce qu'on est la deuxième semaine commence demain. Enfin, on est vraiment, ça y est, on est vraiment dedans et pouvoir aussi parler de ton métier qui est un métier qu'on n'a jamais abordé encore dans le podcast, qui est le métier d'arbitre. Donc je suis très contente qu'on puisse en parler aujourd'hui et qu'on puisse un peu mettre en lumière aussi cette profession-là qui est souvent pas forcément mise à sa juste valeur, en tout cas sur le devant de la scène, si je puis m'exprimer ainsi. Et voilà, et qu'on puisse un peu, que tu puisses nous expliquer les tenants et les aboutissants de ton métier, quoi.
Ouais, ils sont nombreux et surtout les arbitres, c'est les personnes de l'ombre sans qui rien n'est possible parce que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétition. Et en même temps, on les voit que quand ça va mal, quand ils ont pris la mauvaise décision. Ça, on en parle. C'est un métier de résilience, en fait.
Ouais, exactement. Donc du coup, déjà dans un premier temps, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter? Et on va revenir peut-être, on va peut-être pas raconter toute ta vie non plus, mais en tout cas raconter peut-être tes débuts sportifs. Est-ce que t'as toujours aimé le sport? Comment t'as commencé le hockey? Voilà, les choses qui te semblent importantes de dire sur toi.
Eh ben, je peux dire déjà que je suis issue d'une famille de non-sportifs. C'était des intellectuels dans ma famille.
D'accord.
Mais dans les années 80, il y a une petite fille qui est arrivée qui s'appelait Charlotte, qui était hyperactive. Sauf que dans les années 80, les hyperactifs, on savait pas quoi en faire, on les mettait au sport.
Ouais.
Et donc, à 14 mois, j'étais sur des skis au Saisy. À 5 ans, je commençais une classe aménagée de natation. Après, j'ai fait des options sport, là, les classes aménagées de judo. Mm-hmm. J'ai été 12e au championnat de France d'escrime. J'ai joué en région en basket. J'ai joué en national au hand.
Ça fait beaucoup de choses.
Ouais, je me suis jamais enfermée dans un seul sport. J'étais déjà multi-activité. Et puis, un jour, il y a eu le hockey sur glace dans mon petit village de 5000 habitants à Bourgueil, pour les amateurs de vin.
Absolument.
C'est très bien où c'est. Et en fait, il y a une patinoire, une petite patinoire. Et qui est juste à côté du dojo. Et pendant les pauses au judo, on allait voir là, ces grands gaillards. Alors, je trouvais qu'ils allaient super vite, ça faisait beaucoup de bruit, c'était hyper impressionnant. C'était une équipe de loisirs. Hein. Maintenant, quand je vois avec
mon expérience, dis... ils étaient un peu nuls, en fait.
Alors, pas nuls, mais ils étaient au niveau loisirs, oui. dans un petit club familial de campagne, comme on peut en avoir beaucoup en France. Mais en tout cas, ça m'a paru fantastique. Et j'ai dit à ma mère et à ma grand-mère, parce que j'ai été élevée par deux femmes, que je voulais faire ça. On m'a dit, bah, pas de problème, parce que j'ai une éducation non genrée. Donc ça, c'était très facile de pouvoir dire, je veux faire du foot, je veux faire du hockey. Et en fait, on s'est aperçu, au mois de septembre, que les filles étaient interdites de monter sur la glace avec les garçons. Même, okay. Même quand on était petit, hein, j'avais 9 ans. Mm-hmm. Et donc, on a dû attendre 3 mois une dérogation pour que j'aie le droit de monter sur la glace en mixité avec mes petits copains. Donc, je pense que ça a été mon premier combat féministe sans le savoir. Et juste pour l'anecdote où là, c'est fun, en fait. Pendant 3 mois, je suis venue aux entraînements pour voir comment ça se passait et notamment pour apprendre à s'équiper au hockey sur glace. C'est un peu complexe. Mm. Et en fait, les garçons m'ont appris à mettre des bas et des porte-jartelles qui sont les attributs du hockeyeur.
D'accord, incroyable.
Incroyable, ouais. C'est grand gaillard. La prochaine fois que vous allumez Eurosport, que vous voyez des grands gaillards sur la glace, ils ont tous des bas et des porte-jartelles.
Alors, ça fait voir le sport un peu différemment, effectivement, maintenant que tu dis ça. Ouais. Et tu te rendais compte à 9 ans que c'était pas normal qu'on te donne pas accès à la patinoire comme les garçons ?
J'ai pas eu l'impression de m'en rendre compte. J'ai juste compris qu'il y avait une difficulté. Et puis, ça a été géré. J'étais dans un petit club de campagne. Les gens étaient bienveillants. J'ai pas eu de... Ah ben non, on veut pas de filles avec nous sur la glace. C'était pas ça. C'était vraiment une histoire d'assurance, de licence, etc. Et puis, ils m'accueillaient à bras ouverts. Donc, je l'ai vécu comme une injustice, effectivement, parce que j'avais pas le droit d'y aller, mais je l'ai pas vécu comme une injustice sexiste à l'époque. J'avais 9 ans. À 9 ans, on se pose pas ces questions.
Mais on peut se rendre compte que c'est triste. C'est pas forcément, effectivement, c'est pas normal, mais ça peut te rendre triste.
Ouais. En fait, j'ai été frustrée de pas pouvoir y aller avec les petits copains. Et après, une fois que je suis montée sur la glace, là, j'ai compris ce que c'était les injonctions genrées. Mmh. Parce que j'ai très vite compris que je l'avais vécu dans d'autres sports. J'avais fait du football où ça s'était super mal passé parce que j'étais nulle. mais ça s'était quand même cristallisé sur mon genre parce que j'étais une des seules filles de l'équipe.
D'accord.
Et donc, vu que j'étais nulle, on m'avait mis dans les buts et après, on m'avait mis sur le banc. Mais en fait, je l'avais pas analysé. Et quand je suis arrivée au hockey, j'étais vraiment débutante et je me suis vraiment aperçue que pour compter dans cette équipe, il fallait vraiment que je sois la meilleure, une des meilleures buteuses, quelqu'un d'incontournable dans l'équipe pour vraiment être intégrée et que ça serait plus difficile que pour le petit copain d'à côté qui arrivait d'ailleurs.
Toujours cette notion d'en faire deux fois plus pour être acceptée.
Et ça, à 9 ans, je l'avais bien, mais j'avais un mental de guerrière, donc... ça m'a pas coûté, en tout cas. Je l'avais analysé, mais ça m'a pas coûté.
Et t'as tout de suite eu un coup de foudre pour le hockey ? Tu t'es dit, parce que t'avais fait plein de sports avant, t'as testé plein de choses. Là, tu t'es dit, ok, j'ai peut-être trouvé vraiment le sport qui me convient parfaitement.
Et ben, je l'ai jamais vraiment su. C'est rigolo de dire ça. Maintenant, j'ai 40 ans, la carrière est passée, en fait.
Ouais.
Et j'ai jamais vraiment su si le hockey, c'était ma passion première devant tout. Tout autre chose, parce que j'ai continué à faire d'autres sports aussi à côté.
Okay.
Pendant que je faisais du hockey, je faisais du tennis, j'ai continué le judo, j'ai fait du hand, j'ai fait de l'équitation, enfin j'en ai fait plein. J'en ai fait plein à côté, j'ai jamais été monosport. Et en fait, je crois que je suis vraiment passionnée de l'exploit sportif. Et quand je parle de l'exploit, c'est pas forcément celui des autres, c'est le mien. C'est ma capacité à me dépasser sur quelque chose de nouveau. Et là, pour le hockey, il y avait quand même une grande marche plus compliqué que pour le foot, c'est déjà qu'il faut apprendre à patiner.
Ouais. Et ça, comment ça s'est passé ?
Eh bien, ça s'est passé comme tout gamin. On te met des protections.
On se casse la gueule.
C'est ça, on passe son temps. Et tu sais, l'expression qui dit « on apprend en se relevant », là, ça prend tout son sens. On passe son temps à tomber, à se relever, à essayer. Et puis, il faut maîtriser cette crosse, ce palais, c'est pas évident. En fait, je crois que le défi du hockey sur glace, pour moi, il était dans la complexité de l'apprentissage.
Ouais.
Et après, les choses se sont faites petit à petit. J'étais meilleure buteuse de mon équipe. On m'a envoyé faire des stages. J'étais toujours la seule fille ou une des seules filles. Je dormais chez les coachs parce qu'on me mettait jamais en dortoir avec les garçons. Mais toujours, c'était bienveillant. Vraiment, je l'ai vécu de façon facile, hormis les propos homophobes qui planaient au-dessus. et pour lesquelles je n'étais pas attristée, hein, vraiment. Mmh. Et ben, ça s'est fait facilement. J'ai joué en équipe féminine. J'avais plus le droit de jouer en mixité. J'ai fait des piges en équipe de France. Hein, jamais celle qu'on appelait pour les grands tournois, mais celle qu'on appelait quand les stars étaient pas là parce qu'il fallait faire le nombre. Je peux dire que j'ai porté le maillot de l'équipe de France quand même, et ça, c'était cool. Mmh. J'ai fini ma carrière de joueuse à Montréal, à l'université McGill, où j'ai joué pendant un semestre d'études quasiment avec des médaillées olympiques, des Canadiennes, le pays du hockey. C'était incroyable. Juste énorme. Là, je me suis aperçue que j'étais pas tout à fait au niveau. Et en même temps, c'était une belle expérience, quoi. J'étais bien, j'étais une bonne joueuse, mais j'étais pas une très bonne joueuse. Donc j'ai quand même réussi à naviguer sur cette glace nord-américaine sans trop de difficultés. Mais voilà, ma carrière s'arrêtait là, et c'est comme ça que je suis devenue arbitre après.
Donc tu finis ta carrière de joueuse à quel âge ?
Eh bien, c'était en 2001, 2002, 2003, dans ces eaux-là. Tu vois, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus
donc
exactement.
Tu as 20 ans
J'ai 20 ans. J'ai à peu près 20 ans. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, je rentre en France, mes études sont terminées. Mm-hmm. J'ai aucune carrière. Les joueuses de hockey, même en Amérique du Nord, il y a 20 ans, elles ne sont pas professionnelles. Hein.
Ouais.
Donc, même si j'avais été over the top.
Tu n'aurais quand même pas pu vivre vraiment.
J'aurais pu faire des études, tu vois, en Amérique du Nord, avec une bourse, etc. Mais je n'étais pas dans ce cas de figure-là. Mmh. Et puis, je n'avais pas poussé. Ce n'était pas encore développé dans l'esprit ce sport féminin. Donc, je suis revenue en France en me disant, bon, je suis joueuse en équipe de France de hockey, mais pas top. À l'époque, j'étais joueuse en région au basket aussi. J'ai 20 ans, je finis mes études. Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'ai un homme que je ne remercierai jamais assez, qui s'appelle Patrick Drouin, qui, lors d'un entraînement de hockey, me tape sur l'épaule et me dit « Mais Charlotte, tu veux pas devenir arbitre ?»
Ouais.
Et je lui dis « Bah si, mais oui. » En fait, j'ai dit oui.
sans trop réfléchir. Et voilà.
C'est un peu tout le drame de ma vie. Hein,
bah, bon, après, ça a l'air de plutôt bien se passer quand même. Mais...
Ça va, mais ça réserve quelques surprises, en fait. C'est le après.
Voilà.
Il faut rester stoïque. Hein. Et en fait, je lui dis oui, tout en me disant « Charlotte, à l'UNSS, le sport à l'école le mercredi après-midi, là aussi, j'étais multisport. Dans le milieu rural, c'est un vrai lien social, cette activité sportive au collège et au lycée. Donc, moi, tous les mercredis après-midi, je faisais des compètes. Et j'avais compris que pour pas laisser ma place au petit copain d'à côté qui, lui aussi, voulait pratiquer ou elle aussi voulait pratiquer, il fallait devenir arbitre. C'était le seul moyen de pas quitter le terrain.
Ouais.
Donc, en fait, j'avais cette expérience d'arbitrage multisport à l'UNSS qui m'avait beaucoup plu. Donc, quand Patrick Drouin me dit « Est-ce que tu veux devenir arbitre ?» Bah ouais, pas de problème. Je me retrouve le week-end d'après dans une patinoire de la banlieue parisienne. Alors, ça a son lot d'anecdotes hein, d'arbitrer en banlieue parisienne, parce que c'est un peu les championnats du monde de la ligue de garage. Et là, 44 bons hommes qui veulent en découdre. Et en plus, comme je suis mauvaise, c'est mon premier match, je suis mauvaise.
Ouais.
En plus, ils veulent me tuer.
D'accord.
Ils veulent ma peau.
Sympathique. Bonne ambiance.
Bonne ambiance. Et tout se cristallise sur mon genre, en fait.
D'accord.
J'étais mauvaise, premier
match. Parce que t'étais une femme.
Et en fait, ça se cristallise.
C'était normal.
C'est que, en fait, je pouvais pas être bonne, parce que j'étais une femme.
Oh, ok, ouais.
Et là, je me dis, oh là là, alors, j'ai entendu des noms d'oiseaux, je sais pas si je peux les dire au micro, mais c'était des sales putes, t'as rien à faire là, on t'attend à la sortie.
D'accord.
Et à côté de ça, eux, ils se défonçaient la tête sur la glace. J'avais un collègue. Sur ce match-là qui est devenu mon conjoint maintenant.
D'accord.
C'est ça qui est fun, mais 20 ans après, qui lui était un arbitre expérimenté et qui s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe sur ce match-là » Et il avait peut-être pas pris conscience que c'était l'aspect genré, la cristallisation sur le genre. Bref, un match, l'apocalypse, et je me suis dit « Ok, alors, de deux choses l'une, soit tu lâches le sifflet tout de suite et tu te dis « Bah non, c'est pas possible, c'est trop fort. » Soit, comme j'ai toujours fait, je me suis dit « Ok, ben on va travailler. » Et c'est le défi de l'apprentissage et de la performance qui m'a tenue dans le monde de l'arbitrage. Je me suis dit « Ok, tu peux te faire insulter. Ça peut être des propos sexistes, etc. Mais là, tu as un règlement. Tu vas apprendre le règlement. Tu vas devenir meilleur. Tu vas devenir meilleur que tous ces joueurs-là. Et puis, tu auras un arsenal de règles, un arsenal juridique et réglementaire qui va pouvoir être appliqué.
Est-ce que c'était aussi pour prouver finalement que tu étais compétente et que tu avais ta place, vu que le premier, vraiment la première immersion que tu as eue dans l'arbitrage a été chaotique et en réaction un peu justement de te dire, bah ok, vous pensez que. Alors là, c'est mon premier match, je suis une femme, vous pensez que c'est à cause de ça. Je vais vous montrer en fait que.
Ouais, je pense qu'il y a une réaction d'orgueil. Mmh. Et en même temps, j'avais fait énormément de sport où finalement, je m'étais déjà aperçue que les premières fois, on était nuls.
Oui.
J'avais déjà conscientisé ça parce que je n'avais pas fait qu'un seul sport. Donc là, en fait, c'était juste une étape parmi tant d'autres. Je me suis dit, OK, bah, les premières fois, t'es nul. De toute façon, on est tous nuls la première fois qu'on fait une charlotte au chocolat.
Ouais, bien
on
sûr,
est tous
on fait nuls. Quelque chose, oui.
Et donc ça, je l'avais déjà, j'avais 20 ans, mais j'avais bien intégré que pour se dépasser, il fallait quand même, dans un premier temps, se casser la gueule.
Ouais. Comment ça s'est passé la suite ? Donc, t'as continué, t'as pas lâché, malgré cette première expérience absolument adorable.
Six mois après, j'étais au niveau national, j'étais sélectionnée pour le national, et là, je fais mes premières finales de championnat de France, alors c'était du U15, et là, j'ai un coach qui monte sur la glace. Alors, c'est comme dans tous les sports co, les coachs ne rentrent pas sur le terrain, ça ne se fait pas. Et là, il monte sur la glace et il me dit « Retourne faire la vaisselle et du tricot. » Et là, changement de mindset.
Incroyable.
J'ai appris mon règlement.
J'ai appris le tricot.
J'ai appris le tricot et la vaisselle. Et là, je vire le coach. C'est-à-dire que je l'exclus. En plus, c'était une phase finale et il est suspendu pour propos sexistes.
Oui, j'allais dire. Et du coup, vu qu'il y a un règlement, il peut être.
Il a été suspendu pour la suite du mini championnat qui en fait prenait la forme des finales nationales.
D'accord.
Et c'est à noter quand même que ce coach a pris une grosse claque ce jour-là et a pris conscience de l'importance de la féminisation de son sport. Mmh. Et je dois avouer et lui rendre hommage parce que c'est un coach qui m'a reçu après. Il était président de son club. C'était aussi un club de province où les clubs de hockey sont jamais très gros. Donc il était coach, il était président, ouais. Et en fait, il a fait une grande place aux femmes après dans son club de hockey. J'étais toujours reçue comme une reine. Il est venu s'excuser. Enfin voilà. En fait, ça a eu un véritable impact. Il s'est rendu compte de son erreur. Et je pense que depuis 20 ans, il accueille des jeunes filles, même en sport-études, dans son club.
Mmh. C'est bien, je trouve ça génial. Mais alors, comment t'expliques qu'il ait eu une prise de conscience alors que ses premiers propos avaient été juste inaudibles, inacceptables et emprunts, même pas emprunts, complètement imbibés de sexisme, de machisme, etc.
Alors, il y a plein d'explications et je ne suis pas sociologue, mais on sait très bien que dans les sports dits masculins, il y a une certaine... figure de virilisme, tu sais, à avoir. Et puis, quand ça se cristallise sur le genre, une fois de plus, ça s'était cristallisé sur le genre. Et je pense pas, à cette époque, enfin, durant ce match, avoir fait beaucoup d'erreurs, mais ça s'est cristallisé là-dessus. Et il l'a vraiment pris comme une claque. Voilà, c'est comme si on lui avait dit, non, mais là, t'es allé trop loin. Et il a eu l'intelligence de se dire, mais pourquoi je suis allé trop loin ? Et comment ça se fait ? Et effectivement, j'ai pas à dire ça. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je l'ai vu, moi, sur les 2-3 ans qu'on suivit. Alors, il s'est tout de suite excusé. Et après, lui, il a commencé à réfléchir.
Ouais.
Et oui, bien sûr. Mais pour les hommes, c'est pas facile. Hein. Pour les hommes, notamment dans le milieu du sport et pour les sports dits masculins, tu vois, le hockey sur glace, c'est viril. Hein.
Ah bah,
c'est comme
oui,
le rugby. Hein.
Oui,
bon, c'est des hommes, c'est des vrais.
Et, ça se castagne.
Ouais,
ça...
c'est ça. C'est de la testostérone. Mmh. Et donc, on est aussi... Je pense que les hommes sont aussi victimes du milieu dans lequel ils évoluent.
Ouais.
Et on sait très bien que pour eux, c'est des fois difficile de sortir la tête du rang en disant « Hé, moi, je suis féministe et ça, c'est pas bien. » Parce que la meute masculine, elle est méchante. Hein.
Mmh. Mais ça, c'est un truc, par exemple, moi, je trouve ça génial, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais été élevée de façon non-genrée. Donc finalement, pour toi, le genre... Enfin, il n'y a jamais eu d'obstacle à aller faire tel ou tel sport parce que c'était un sport féminin ou un sport masculin. Est-ce que finalement, tu es rentrée aussi là-dedans de façon complètement décomplexée? Grâce à ça, tu penses que sinon... Est-ce que, d'ailleurs, t'as eu d'autres exemples de femmes qui ont voulu faire ça, qui ne l'ont pas fait, justement, pour ces raisons-là aussi, parce que trop de violence verbale, trop de...
Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de femmes qui ne l'ont pas fait à cause de ça,
ouais.
Parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à émerger, donc elles sont inaudibles.
D'accord.
Peut-être, et sûrement qu'il y en a énormément, mais en fait, on ne les voit pas, parce qu'elles ne le font pas.
Ouais.
Et effectivement, mon éducation non-genrée est la clé... En fait, de la personnalité que j'ai actuellement, ma grand-mère qui m'a élevée était sage-femme MLF d'après-guerre. Ça vous pose un décor déjà. Mmh. Ma mère tout aussi engagée et j'ai un petit frère de 20 ans, mon cadet. Et je me rappelle pour ses Noëls, s'il voulait une tête à coiffer, on lui offrait une tête à coiffer. Il n'y avait pas de rose, il n'y avait pas de bleu. Et c'est un vrai c'est un véritable avantage. Je connais pas beaucoup de familles qui ont cette chance-là, parce qu'on a beau essayer de déconstruire des stéréotypes,
c'est pas évident.
C'est pas évident. Et puis, je suis pas la Blanche Colombe. Hein. De temps en temps, moi aussi, j'ai des réactions. Je me dis, oh là 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 là, mais là, c'est stéréotypé. Et mon conjoint me dit, non mais là, pourquoi tu me dis merci parce que j'ai fait à manger? Tu sais que je suis capable. Et là, tu te rends compte que même quand t'es averti, même quand t'as les deux pieds dedans et que t'es capable d'en parler, que t'as conscientisé, eh ben, tu te laisses rattraper aussi par une société patriarcale, par... Enfin, par plein de choses, toutes les injonctions qu'on a, nous, en tant que femmes, mais eux aussi en tant qu'hommes.
Bien sûr. Pour revenir plus précisément sur ta carrière, tu as continué, du coup, pendant quand même de nombreuses années à être arbitre. C'était ton métier principal ?
Alors non, pas du tout. Les arbitres, il faut savoir qu'en France, on est 246 000 arbitres, tous sports confondus. Hein. De l'apnée au football, en passant par le judo, ça fait 246 000. Et sur ces 246 000, tu en as à peu près la moitié qui payent de leur poche.
D'accord.
Pour aller arbitrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remboursés de leurs frais, on ne leur donne même pas une tranche.
Tu dépenses de l'argent pour,
ouais,
faire...
pour aller arbitrer.
Wow. Okay.
Et sur les 50% qui restent, donc sur 246 000, tu vois, ça fait déjà pas mal, tu en as à peu près moins de 200, plutôt 150, qui vivent uniquement de l'arbitrage.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au hockey sur glace, moi j'ai arbitré pendant des années la ligue professionnelle masculine, mais j'avais un boulot à plein temps à côté. Donc en gros, ça te fait 3 matchs par semaine, 15 000 km par mois, un entraînement quotidien et un boulot à plein temps.
Waouh. Je n'ai pas d'autres mots. Et comment on gère ça ?
On gère comme on peut. Je connais énormément d'arbitres. Alors, je peux prendre l'exemple du hockey sur glace, mais c'est pareil au volley, c'est pareil au handball. On fait aussi beaucoup nos choix professionnels en fonction de notre passion sportive. Mmh. Ça demande énormément de sacrifices. Jusque-là, il n'y avait pas de statut vraiment de l'arbitre de haut niveau. Il y en avait un, mais il était un peu caduque parce qu'on n'avait pas de décret d'application. Enfin, tu vois, c'était, c'était complexe. Mais oui, sur 246 000 arbitres français, il y en a à peu près 150 qui vivent vraiment de ça.
Mais du coup, j'ai une question très simple. Mais qu'est-ce qui te pousse à continuer ? Tu parles de passion, mais est-ce qu'il n'y a que la passion qui te pousse à continuer ? Parce que si ça te coûte de l'argent, ça t'empêche d'avoir du temps libre finalement ou de faire d'autres choses à côté qui pourraient être aussi rémunératrices. Qu'est-ce qui fait que tu continues ?
La passion.
C'est vraiment que ça ?
C'est vraiment la... Quand on est arbitre, on est passionné. On est passionné par son sport. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce slogan-là, il y a une dizaine d'années. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
Ouais.
Mais ouais, en fait, quand on est arbitre, on est juge ou arbitre. Hein. Après, ils ont plein de noms différents, ce corps arbitral. On est animé par la passion de bien faire. On est au service du jeu. On sait très bien que sans l'arbitre, il n'y a pas de compétition. Et puis... On devient arbitre. Moi, je connais très peu de personnes qui, même pas du tout, tu sais, chez les gamins, quand tu dis que tu feras quoi plus tard, je serai footballeur professionnel, je serai footballeuse professionnelle, etc. Il y en a aucun qui lève la main pour dire moi, je serai arbitre. Mais comme t'en as pas beaucoup qui lèvent la main pour dire moi, je deviendrai CRS.
C'est sûr. Bah, c'est ceux qu'on insulte, en fait. Hein. C'est ceux.
Et c'est quand même le boulot le plus dur à encaisser, le plus ingrat. On parle de toi que quand t'as pris la mauvaise décision. Ouais. On parle jamais de toi pour dire que t'as pris la décision. Les joueurs ou les joueuses ont forcément perdu par ta faute, mais ils gagnent jamais grâce à toi. Mmh. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la lumière ne s'arrête jamais sur toi. Tu es vraiment là au service du jeu. Ton boulot en tant qu'arbitre dans tous les sports, c'est de mener la compétition à son terme en respectant l'intégrité physique des joueurs et dans une équité parfaite. Mmh. C'est vraiment pas simple. Et en tout cas, c'est la passion qu'anime ces 246 000 arbitres français.
C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Je pensais pas qu'il y avait si peu de personnes qui en vivaient. Parce que c'est vrai que finalement, c'est quand même des métiers qu'on voit, qui sont visibles. Parce que je veux dire, sans eux, le sport ne peut pas avoir lieu, hein, finalement. Et on a besoin de ces personnes-là. Et j'avoue que je suis un peu choquée. Et d'ailleurs, je crois que je reprends un pourcentage que j'avais lu dans une de tes interviews où tu disais que donc sur ce nombre d'arbitres-là, il y avait à peu près 25% qui étaient des femmes, un peu moins de 25% de femmes.
Ouais, on a failli, avant le Covid, atteindre les 30%.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a progressé d'à peu près 10% en 20 ans.
Oui, ce qui est très peu.
Ce qui est dingue. Et dès qu'on parle du haut niveau, on passe là à 15% sur les listes ministérielles des juges arbitres de haut niveau. On passe à peu près 15%. Alors, ça fluctue d'année en année, bien sûr. Mais c'est hallucinant parce que, effectivement, comme tu le disais, c'est demandeur en temps. Mm. Alors, on n'est pas tous des arbitres sportifs dans le sens où... Alors, c'est moi qui l'ai théorisé. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais tu as trois types d'arbitres. T'as l'arbitre sportif à qui on demande d'avoir la même condition physique que les personnes qui l'arbitrent,
oui.
Au football, mm-hmm. au hockey, au rugby. Et puis, t'as les arbitres juges qui, eux, jugent des décisions, patinage artistique. Ouais. Ils ont besoin, alors, pas de physique, mais d'une grande connaissance mm-hmm. artistique, culturelle, etc. Et puis, t'as un peu l'arbitre entre les deux. C'est pas péjoratif d'être entre les deux, mais on demande moins de conditions physiques. Le handball... Maintenant, je suis devenue arbitre de hand, je crois que c'est moins exigeant, mais il faut quand même une condition physique, mais c'est plus abordable, parce que tu es des sports de petit terrain, et puis on te demande aussi, sur certaines choses, de juger. Le juge de ski acrobatique, il a une technicité, mais il a aussi un aspect artistique à juger.
Mmh. Et à ton avis, pourquoi il y a si peu de femmes? Quelle est la raison pour qu'elles ne se lancent pas?
Alors, j'ai l'habitude de dire, la femme est l'avenir de l'arbitrage. Mmh. On a beaucoup de mal à recruter des arbitres. Comme on le disait, c'est vraiment pas le rôle qui fait rêver. Ouais. Et puis, c'est pas celui qui est valorisé. Hein. Quand tu vois comment sont parfois traités les arbitres de foot par les médias, alors je parle du foot, mais sans leur en vouloir, parce que c'est le sport le plus médiatisé en France. Ça donne pas forcément envie, toi, Chloé, si je te dis, viens, tu vas aller arbitrer du foot, tu vas te dire, mais moi, j'ai pas envie de me faire chahuter tous les week-ends. Sûr. Et on sait très bien que des fois, dans les niveaux inférieurs, c'est encore pire. Mmh. Le nombre d'agressions d'arbitres, c'est pas pour rien qu'ils sont protégés par une loi, la loi de 2006, qui aggrave les sanctions parce qu'ils sont considérés comme détenteurs de l'autorité publique, d'une mission de service public. Pas de l'autorité publique, mais d'une mission de service public. Et... Il y a plein de facteurs. Ça demande du temps, ça demande un investissement, physique ou non, mais en tout cas, ça demande un investissement en temps. Mmh. Et puis, moi, je reste convaincue que si on faisait des cours d'arbitrage dès le plus jeune âge, si tu donnais un sifflet à une petite fille, c'est lui apprendre à dire non. Mmh. Dans cette société où on nous dit « sois belle, tais-toi, reste dans ton coin, on ne veut pas t'entendre », c'est quand même l'opposé de l'arbitre où on dit « prends une décision rapide, nette et précise et fais-la savoir. Mmh. Donc, il y a aussi tout un aspect culturel où c'est compliqué pour une jeune fille de se dire, tiens.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je fais du basket, je vais me mettre à l'arbitrage, alors que je suis bien dans mon club, j'ai une équipe de filles, je me sens bien. Parce que je vais devoir aller arbitrer les petits copains. Mm. Et ça, c'est mettre en avant. On ne m'a jamais appris à me mettre en avant. Apprendre à dire non et stop, c'est quand même pas rien. Hein.
Imposer une sorte d'autorité aussi.
C'est ça, prendre sa place. C'est prendre sa place au milieu du jeu. C'est pas ce qu'on apprend aux petites filles. Hein. C'est attention, tu vas déchirer ta robe, cours pas trop vite.
Est-ce que tu penses que finalement, tu vois, dans les cours de PS, il faudrait pouvoir mettre ce rôle en place? Pour il y a celui de joueur et celui d'arbitre et que ce soit une place qu'on apprenne aussi du coup aux enfants, aux petits garçons, aux petites filles.
Alors il y a un truc qui est hallucinant dans notre société française, c'est qu'on a l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire, c'est le sport à l'école, j'en parlais tout à l'heure. Et là il y a tout un programme qui s'appelle Vers une génération responsable, jeune officiel. J'en suis l'ambassadrice depuis 2014. Et là on a à peu près 250 000 jeunes. Entre la sixième et la terminale, qui s'engagent dans une démarche citoyenne, donc d'arbitre, alors pas que, il y a des coachs, il y a des secouristes, etc. Mais là, on arrive à avoir la parité. Donc ça veut dire qu'au collège et au lycée, on arrive à avoir une parité quasiment, alors peut-être pas parfaite, mais on doit être à 45-55, ça dépend des années, mais quasiment la parité, alors que dans le milieu fédéral, on est incapable.
Ouais.
Il y a vraiment des leviers qu'on n'utilise pas dans le milieu fédéral. Mais parce que c'est tout un ensemble, la médiatisation du sport féminin, la gouvernance du sport, elle est beaucoup plus masculine que féminine. Regarde des fédérations qui sont dites de filles, de sport de filles, la gym, la danse, la gouvernance, elle est masculine.
Oui, tout à fait.
Donc, le rôle de l'arbitre, en fait, il échappe pas à cette société.
Complètement. Et c'est même accentué encore plus, j'ai l'impression.
Parce qu'on leur demande de prendre des décisions, de prendre leur place, de dire non et stop. Ce qui n'est pas l'injonction naturelle d'une femme. Quand je dis naturelle, hein, je m'entends. Naturelle.
Bien sûr. Ah oui, non, mais je comprends. On comprend très bien.
L'injonction culturelle qu'on demande à une femme.
Ouais. Pour revenir aussi sur ta carrière d'arbitre, donc t'as arbitré pendant combien de temps le hockey à haut niveau?
Alors, j'ai commencé en 2003-2004, me semble-t-il. Je suis devenue internationale en 2010. J'ai fait les Jeux Olympiques de 2014, j'ai fait les Jeux Olympiques de 2018. Entre-temps, j'ai arbitré 6 championnats du monde, de nombreuses Coupes d'Europe, finales de Coupes d'Europe. Je suis même allée en Amérique du Nord arbitrer des finales nord-américaines et plein d'autres tournois. Donc, une carrière à peu près de 15 ans, on va dire.
D'accord. Donc, t'es arrivée au plus haut niveau de l'arbitrage de ton sport.
Ouais.
Je crois que tu étais dans le top 5, finalement, des arbitres internationaux.
Oui, ouais, ouais. Entre 2014 et 2018, et même avant 2014, je fais partie du, on va dire, du top 10, parce qu'il n'y a pas de classement, tu vois. C'est pas l'ATP. Il n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais généralement, quand tu fais les Jeux Olympiques, tu es dans un pool de 10 arbitres, donc tu es forcément dans le top 10. Et je l'étais un peu avant 2014.
Tu étais la seule femme au jeu?
Alors non, j'étais dans un pool de femmes arbitres.
D'accord.
En fait, le hockey sur glace a la particularité de ne pas avoir le même règlement pour les hommes et pour les femmes. Donc, il y a pour l'instant, je pense que ça va évoluer et c'est en train d'évoluer, heureusement. Il y a 20 ans de ça, les hommes arbitraient les femmes, on n'avait pas assez d'arbitres féminins. Moi, je fais partie de la première, enfin pas de la première, mais dans les premières générations de femmes, où on n'était que des femmes à arbitrer les femmes. Et aux Jeux Olympiques, donc on était un pool de femmes à arbitrer les femmes. Je crois à Turin, c'était encore en mixité. Vancouver, on était déjà que des femmes. Moi, je n'ai pas fait Vancouver, mais elles étaient que des femmes. Et puis maintenant, là, depuis 1, 2, 3 ans, en Amérique du Nord, il y a certaines femmes qui ont des contrats pro pour aller arbitrer les hommes.
Génial.
Donc voilà, on commence à rebasculer dans quelque chose de plus normal, parce qu'il y a une représentativité plus légitime. Moi, j'ai arbitré la Ligue professionnelle masculine en France, la Ligue Magnus, pendant 10 ans.
Tu as fait 6 championnats du monde aussi, ouais. Je crois. Donc oui, tu as été vraiment sur les plus grosses compétitions internationales qui ouais. existent dans ta discipline.
Oui, ouais, j'ai eu la chance de faire ces 2 Jeux olympiques. Alors, la chance, j'ai travaillé un peu hein, quand même. On aime bien dire j'ai eu la chance, mais en fait, on la travaille, la
tu
chance.
Tu le mérites aussi, voilà, faut pas.
Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui a tiré mon nom au hasard dans un chapeau. Ah ouais. Ça, c'était un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, ces 6 championnats du monde, ces 2 Jeux olympiques font que j'ai le plus gros palmarès de l'arbitrage français du hockey sur glace. Hommes et femmes confondus.
Et ça, ça a attiré aussi de la jalousie?
Oui. Il n'y a pas d'autre réponse que oui. Beaucoup de jalousie, alors mal placée ou pas, j'en sais rien. En ligue professionnelle masculine, alors j'en parlais hier avec les autres consultants d'Eurosport qui bien sûr m'interrogent en disant « Mais ouais, mais je me rappelle, t'étais une des seules femmes, ça se passait bien. » Bah oui, forcément, ceux que j'ai en face de moi, c'était des gentils.
Ouais.
C'est toujours gentil. Alors, les coachs, les joueurs, il y en a quelques-uns qui ont des propos sexistes, mais c'est très à la marge. Mm-hmm. C'est plutôt du sexisme bienveillant, condescendant. D'accord. Je vous ramasse le palais, je vous fais un petit sourire. C'est à peine si je ne vous invite pas à dîner après le match. C'est pas méchant. On en a dans la société. Oui, ça serait mieux de ne pas avoir.
Oui, voilà, ouais.
Mais on sait que ce n'est pas le sexisme qui a violent.
Ouais.
Le sexisme violent, je l'ai eu auprès de mes... Alors, de mes confrères, pas tous, bien sûr, pas tous, là non plus. Il ne faut pas faire une généralité.
Bien sûr.
Mais la plupart, en fait, par division, vous avez un pôle d'arbitre, vous avez un certain nombre d'arbitres et on tourne tous sur cette division.
Mm-hmm.
Et donc, on se connaît tous très bien et vous savez très bien qui sont les méchants, qui sont les gentils.
Ouais.
Et les méchants sont vraiment méchants, mais il y a aussi des méchants un peu gentils et des gentils un peu méchants. Non, mais il faut être réaliste. Je suis pas contre les blagues un peu graveleuses hein. dans les sports co. Je vous mets au défi de trouver un sport co où il n'y a pas des blagues de vestiaire. Oui, il faudrait peut-être les affiner un peu, mais j'en suis tout à fait responsable, moi aussi, comme les autres. Je fais vraiment bien la différence entre ça, des propos sexistes, des attitudes sexistes. Et puis, j'ai aussi dénoncé des faits d'agression sexuelle, pas sur moi, mais des faits d'agression sexuelle sur des jeunes arbitres aussi.
Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est présent. Tu l'as déjà dit, même au tout début. Alors, c'était certes à plus petit niveau et c'était un peu violent garage, pour réutiliser tes termes, mais c'est quelque chose qui existe. Est-ce que... toi, par exemple, cette notion de jalousie que pouvaient avoir certains de tes confrères, c'était dû ou accentué, exacerbé par le fait que tu étais une femme ?
En fait, plus mon palmarès s'est offert international, plus c'était compliqué au niveau national. Et alors, ce qui est dingue, parce que paradoxalement, comme je l'ai expliqué, les femmes arbitrent les femmes et les hommes arbitrent les hommes, en fait, on ne briguait pas les mêmes places à l'international.
Ouais,
donc,
d'accord.
Je leur faisais pas forcément de l'ombre. Mais ça a été comme ça. Comme je le dis souvent, la méchanceté, la cupidité, la jalousie se cristallise sur... alors, la faiblesse, non, parce que ce n'est pas une faiblesse d'être une femme, mais se cristallise sur la faille. Et si vous êtes une femme au milieu d'hommes, ça va se cristalliser sur votre genre.
Mais parce que c'est la différence.
C'est la différence. Si vous êtes un homme peut-être plus efféminé que les autres, ça va se cristalliser sur votre supposée homosexualité. Parce que vous avez une part de féminité, on n'en est pas compte, donc vous êtes faible. Enfin, voilà. Je pense que la plupart du temps, ce sexisme-là de mes collègues se cristallisait sur cette histoire de genre parce que c'était la différence et c'était pas foncièrement, pour la plupart, des affreux jojos, quoi.
Mais est-ce que tu penses que finalement, ça les renvoyait aussi peut-être à leur propre fragilité, si je puis dire, en tout cas, d'être vexé, d'être moins bon qu'une femme ou quelque... Tu vois, ce schéma-là.
Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête.
Ouais.
Il y a tellement d'injonctions, eux, d'être performants parce que ce sont des hommes. Il y a quelques femmes qui viennent là-dedans. Et en plus, elles font les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Pourquoi elle et pas moi ? Il y a cette histoire de « je le mérite plus parce que c'est un sport d'homme ».
Moi, j'allais te demander, même au-delà d'un sport d'homme, alors ça, c'est clair, parce qu'effectivement, c'est un sport qui est identifié comme masculin, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est finalement pas l'apanage du sport, globalement ?
Le sport, c'est pour les hommes, c'est la virilité. C'est, enfin, là aussi, on peut remonter à quelques dizaines d'années, voire plus. Hein. Le sport, c'était quelque chose de viril, de masculin. Coubertin.
Oui, j'allais dire les Jeux Olympiques, voilà. À l'origine.
La restauration des Jeux Olympiques, elle ne s'est pas faite avec les femmes. Hein.
C'est sûr.
Voilà, il a fallu pousser. Et puis, je vous rappelle qu'il y a quasiment 100 ans, la gymnastique, c'était un sport d'homme, parce que c'était pour préparer les cavaliers, le pentathlon moderne, etc. Donc, on arrive quand même dans un monde qui a été fait par les hommes, pour
les hommes.
Ouais. Et on bouscule un peu les lignes. Et vraiment, ce n'est pas conscientisé de la part de beaucoup. Hein. Je suis même pas sûre que ceux qui ont eu de nombreux propos sexistes à mon égard soient capables déjà, un, de l'identifier. Je pense que j'ai suffisamment parlé pour qu'ils, j'espère, se remettent chacun en question, comme ce coach que j'avais auparavant sanctionné. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, en fait, je pense qu'ils ne comprennent même pas ce qui s'est passé quand j'ai dénoncé ça.
Mais justement, pour revenir là-dessus, donc toi, tu as dénoncé des faits d'agression sexuelle, de sexisme, envers toi ou pas, comme tu le disais tout à l'heure. C'est des faits qui ont, j'ai l'impression, pas forcément été entendus.
Alors, ils ont été entendus, mais tout de suite, les agresseurs se sont posés en victimes.
D'accord.
Ça, c'est une réaction classique hein, quand on dénonce ces violences faites aux femmes. En fait, la Fédé, le corps même de la Fédé m'a entendu en disant « mais c'est dingue, il va falloir réagir ». Et toute la branche des arbitres s'est crispée et s'est positionnée en tant que victime en disant « vous rendez compte, le bazar qu'elle met. J'ai des filles qui m'ont dit « mais tu te rends pas compte, on ne peut pas étaler ça sur la place publique. Le linge sale, ça se nettoie en famille. Tu nous mets dans une grande difficulté de dénoncer ça. » Et en fait, l'omerta, au final, a été organisée par une femme. Et on n'était pas beaucoup. Hein.
Ok, c'est dingue ça.
Et oui, parce qu'en fait, c'est tellement dur de faire sa place. C'est tellement dur de gagner... de gagner de l'autorité et la légitimité, que le jour, moi je le savais, j'avais beau avoir le plus gros palmarès, j'étais sélectionnée pour mes deuxièmes Jeux Olympiques, je savais que j'ai cru que j'avais un totem d'immunité en fait.
Ouais.
Et en fait, pas du tout. ma tête dépassait encore plus et elle était encore plus facile à couper.
Ouais.
J'espère que ça a fait réfléchir certains. En tout cas, je ne l'ai pas fait pour moi. Je savais le risque que j'encourais. Je ne pensais pas que ça allait être aussi violent, mais j'avais quand même une idée. Je l'ai fait vraiment pour les générations futures. Je l'ai fait pour les jeunes filles que j'ai protégées aussi en dénonçant ces faits d'agression sexuelle. Et je me suis dit, j'aimerais bien que les gens réalisent que c'est pas normal de trouver ça évident que les hommes et les femmes se changent dans le même vestiaire. C'est pas normal que certains collègues vous demandent de voir un sein, de voir une fesse à l'envi, à répétition pendant 4 heures de match. C'est pas normal que moi, on m'appelle Chachate, parce que mon prénom c'est Charlotte, donc Chachate, dis donc, t'es dégoulinante de sueur.
Ouais.
C'est pas normal en fait. Il y a des choses qui peuvent être normales. Et je vais peut-être choquer, mais au hockey sur glace, on a tous des grosses protections.
Mmh.
Et un des gestes classiques du hockey sur glace, c'est une main aux fesses, mais une gentille main aux fesses, d'encouragement comme on ferait à un bébé sur une couche en disant « Allez hop, avance !» Et ça, ça peut être normal. Ce n'est pas une agression sexuelle, très clairement. Par contre, quand un joueur, dans mon dos, dit « Eh regarde, on va se marrer avec l'arbitre », et là, clairement, on me met une main aux fesses en allant chercher... à toucher mes parties génitales, même s'il y a, il y a 5 cm de protection. Mmh. Hein, c'est pas le... Et que l'arbitre qui est avec moi sur le match, et je lui dis voilà ce qui s'est passé, il me dit oh, c'est bon, détends-toi, c'est juste une main aux fesses, rigole, c'était juste de l'humour. C'est pas normal.
Mmh.
C'est pas normal. Et il faut vraiment faire la différence, et je la fais, je pense, le mieux possible, entre oui, on est dans un sport co, oui, il y a des blagues de vestiaire, oui, on est potache aussi, je suis la première à être potache. Mais non. En fait, tout ne doit pas se cristalliser sur le genre. Non, on n'a pas le droit de se faire traiter ainsi. Et il faut dénoncer. Il faut dénoncer pour que les générations futures, elles soient peut-être dans un autre vestiaire. Maintenant, je suis passée au hand. Je suis devenue arbitre nationale de hand avec mon conjoint. Quand on arrive dans tous les clubs, ils ont beau la plupart savoir qu'on est conjoint à la ville, mmh. conjoint et conjointe, on nous propose deux vestiaires. Un pour lui, un pour moi. Au hockey sur glace... En fait, on s'arc-boute, on est un des seuls sports encore où les hommes et les femmes sont dans le même vestiaire.
D'accord.
C'est pas normal.
Est-ce que toi, t'as été un peu mise de côté après, c'est pour le dire gentiment, après ces déclarations que t'as faites et tous ces points que t'as soulevés est-ce que t'as quand même l'impression, est-ce que déjà, c'est pas frustrant pour toi de te dire que t'as fait cette démarche-là pour essayer de changer les choses. Est-ce que ça a changé les choses ?
Je sais pas si j'ai... Alors si, je pense que très clairement, ma prise de parole a été publique. Elle a été largement relayée. Hein. J'ai eu des très beaux podcasts, tu le disais, Cléo, t'en as écouté certains. En fait, il faut aussi s'ouvrir. Oui, le monde du hockey sur glace est un petit monde. Peut-être que j'ai pas été entendue, mal comprise, incomprise... mise au banc, on m'a déclaré en retraite alors que moi-même, je n'avais pas pris cette décision de retraite. OK, on m'a supprimé ma licence internationale. OK, enfin, il s'est passé plein de choses. Mais en fait, ma prise de parole, c'était avant MeToo. C'était avant l'affaire Péchala. C'était avant plein de choses, en fait. Elle était un peu précoce. Je suis arrivée un peu trop tôt pour que ça soit bankable par les journalistes, comme on m'a dit. Mais en fait, elle est importante. J'ai eu plein de témoignages en retour de filles hein, d'autres sports qui me disent « Ouais, mais alors du baseball, du football, de la lutte, etc. » qui m'ont dit « Mais merci, en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre ça. Oui, c'est pas simple. Oui, les infrastructures ne sont pas faites pour avoir deux vestiaires, un homme, un femme, et on se retrouve souvent dans le placard à balai. J'ai l'impression de subir la discrimination parce que je suis une fille. » Enfin, voilà. Et ça a ouvert, en fait. Ça a ouvert la parole. Alors, peut-être pas dans le monde du hockey sur glace, et quoique, je suis sûre qu'il y en a certains qui ont réfléchi sur leur pratique. Mais quand on fait ça, on le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Mmh. En tout cas, c'était mon envie. Mon envie, c'était, oui, je savais sûrement que je mettais la tête sur le bio. Je pensais pas que le coup de guillotine serait aussi sévère, mais au moins, ça a tranché net. Mais ça a pu mettre en lumière des... Enfin, tu disais, hein, Cléo, les arbitres, on ne les connaît pas.
Oui.
Et on ne les connaît tellement pas que tout ce qui se passe à l'intérieur, on le connaît encore moins.
Alors que finalement, j'ai même l'impression que c'est encore plus exacerbé qu'au sein du sport en lui-même et de la pratique et des athlètes, de ce que tu dis. Enfin, moi, c'est ce qui ressort, je trouve.
Bah, quand tu fais partie d'un club de sport, d'une équipe, si t'es pas bien dans l'équipe, tu changes d'équipe.
Ouais.
Si t'es passionné. Tiens, jouer dans ce club-là, ça se passe pas bien, je me sens pas bien, je change de club. Dans la mesure du possible, c'est réalisable dans énormément de sports. Quand t'es arbitre, t'es arbitre. Mmh. Et ton équipe, c'est l'équipe des arbitres.
Donc t'es obligé, si tu veux changer, tu changes de sport. Tu changes de discipline.
Ouais.
C'est terrible. Ouais, non, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour, à un niveau au sein, par exemple, des fédérations ou un niveau supérieur, pour que ça s'arrête, ou du moins ça s'atténue, et qu'on arrive sur quelque chose de plus sain?
Alors, l'éducation, ça, c'est comme partout dans la société, c'est l'éducation qui est la clé. Ça,
oui,
on le sait bien.
Bon.
Alors, ben oui, mais il faut quand même le souligner. On est tous responsables en tant que parents, adultes, d'arrêter de dire « Ah ben dis donc, ta fille, elle est calme, mais c'est normal, c'est une fille. » Non, c'est un enfant, il est calme parce qu'il est calme. Et on n'est pas obligé d'être un petit garçon pour casser des voitures, en fait. Donc voilà, il y a déjà l'éducation avec ses biais genrés, ses injonctions, etc. Et puis, l'arbitrage, c'est toute la difficulté d'avoir, pour beaucoup de fédérations, l'idée d'avoir un état dans l'état. Vous vous rendez compte le poids et le pouvoir d'un arbitre? Parce que c'est le seul qui est en capacité d'avoir un résultat final. Alors bien sûr, il y a les athlètes qui sont là pour briller, qui sont là pour performer, mais sans arbitre, ils sont rien. Ils ne peuvent pas faire de compétition. Et donc, le pouvoir supposé de l'arbitrage est vraiment très grand. Et ça fait peur à certaines fédérations. Donc, dans énormément de fédérations, c'est un peu... Alors, pas un état dans l'état, mais les arbitres, on les laisse gérer leur truc ensemble et on ne met pas trop son nez dedans parce qu'on ne sait pas comment gérer cette population si particulière.
Ils préfèrent s'extraire plutôt que de se mouiller un petit peu et de mettre en place...
Alors après, il y a
choses.
Des faits...
Mais pourquoi? Parce que je veux dire, de toute façon, vu que c'est eux qui ont quand même... Je veux dire, c'est les fédérations. Donc, en quoi, eux, s'ils prennent des décisions sur telle ou telle chose... Ça va leur retomber dessus, si je puis dire.
Alors, c'est pas que ça va leur retomber dessus, mais en fait, c'est la capacité à juger ce phénomène arbitral dans leur fédération comme partie prenante de la fédération. Il y a des fédérations qui sont très vertueuses. La Fédé de Hand, je la connais plutôt bien, qui est une fédération très vertueuse en termes de parité, d'égalité, qu'on aille chez les côtés joueuses, dirigeantes. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour valoriser le rôle des femmes. L'important, c'est de tendre à une parité de plus en plus à 50-50. Ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et le secteur de l'arbitrage n'est pas oublié par la fédération. C'est-à-dire que le plan de féminisation, il est décliné aussi bien... chez les arbitres, que chez les dirigeants, que chez les joueuses, que dans le haut niveau, etc.
Dans toutes les strates.
Dans toutes les strates. Il y a plein de choses pour ça. La gouvernance du sport. Quand, dans votre fédération, vous n'avez... Alors, de façon légale et obligatoire, vous devez avoir une commission d'arbitrage. Mais vous nommez le ou la patronne de l'arbitrage. Il y a quelques fédérations qui sont plutôt vertueuses, qui n'attendront pas la loi qui, j'espère, va être confirmée et votée, qui fera qu'un arbitre sera élu dans les comités directeurs des fédérations.
D'accord.
Et quand on a un arbitre au hand, l'arbitre est élu sur la liste. Là, c'est Olivier Buis qui était sur la liste de Philippe Bana, qui est un ancien arbitre international. Il a la responsabilité de décliner le plan de féminisation. Mmh. Et ça se fait. Et quand je dis plan de féminisation, c'est pas simplement je veux des quotas de femmes. C'est que j'accompagne les filles, je vais les chercher. C'est la rétention des talents, c'est aussi aller dire aux jeunes filles, non mais arbitrer, c'est cool, Wanda, c'est pas plus compliqué.
Ouais.
Donc il y a des fédérations vertueuses et il y en a d'autres qui mettent un peu un mouchoir dessus en disant, non mais les arbitres, ok, nous on veut juste que les résultats des compétitions soient bons, là, mais les arbitres ils se débrouillent entre eux, on leur donne un budget de fonctionnement, etc. Mais on regarde pas vraiment ce qui se passe parce que c'est vraiment le nombre de fois où j'ai entendu, non mais les arbitres, vous êtes d'une autre planète.
On vous met à part, en fait, vraiment.
On nous met à part. Tu te rends compte, Cléo, on est les seuls avec les athlètes. Et une fois de plus, c'est les athlètes qui sont là pour faire le jeu. Mais on est les seuls à avoir un résultat direct sur la performance.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Donc, t'imagines l'idée de pouvoir qu'il peut avoir derrière. Et ce qui est dingue, c'est que l'arbitre, plus tu montes dans les niveaux. Alors, tu peux devenir arbitre parce que tu as envie d'être, d'avoir du pouvoir. Ça ne dure jamais trop longtemps. Vraiment.
Ce n'est pas la bonne raison.
Ce n'est pas la bonne raison. Ce n'est pas pour l'argent non plus, on l'aura compris. Ouais. C'est pour la passion. C'est la passion, c'est le défi sportif, etc. Mais en fait, les arbitres sont impartiaux. Et plus tu montes dans les niveaux, plus ils font preuve. Ils ont la tête bien faite, les arbitres de haut niveau. On le voit dans tous les sports. C'est des gens qui sont réfléchis, qui sont capables d'appliquer un règlement une fraction de seconde, sous pression. Eh bien, ils sont pas là pour prendre le pouvoir. Ils sont là pour leur sport, pour mener le match à bout. Mais qu'est-ce que ça fait peur, en fait, des gens qui sont aussi détachés de cette notion de pouvoir. On est dans un monde masculin, et là, on a bouclé la boucle.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, peu importe, qui ont envie de se lancer en tant qu'arbitre, qui ont une passion pour un sport? Et c'est vrai que ton discours, alors il peut faire peur en fait. Là, on l'a très bien compris que tu es passionnée, tu le fais depuis des années, tu n'as pas lâché, donc c'est quand même un bel exemple. Mais ton discours, il est quand même compliqué parce que tu as fait face à des difficultés, à du sexisme. Qu'est-ce que toi, alors que ça fait 20 ans que tu es dedans, tu as envie de dire à ces jeunes femmes qui ont envie de le faire, peut-être encore plus particulièrement dans des sports dits masculins où ça risque d'être peut-être plus compliqué? Quel est le message? Voilà, il n'y a pas de...
Le message, c'est comme dans la société, dans son ensemble, c'est lancez-vous. Parce que vous avez beau râler, mesdames, qu'on n'a pas notre place, qu'on vit du sexisme, mais quand on vous tend la main, il faut la saisir. Moi, j'ai saisi la main de Patrick Drouin en disant « Ouais, j'y vais en tant qu'arbitre. » Et de plus en plus, il y a une prise de conscience de ce manque de féminin dans les collectifs. Et là, ça s'ouvre. Mesdames, il y a de la place. Honnêtement, la femme, c'est l'avenir de l'arbitrage. On a du mal à recruter. On recrute très peu de femmes. Plus il y aura de femmes, plus il y aura de place. Et limite, je pourrais dire, la motivation, c'est prenez votre armure. Déjà, ça va bien se passer. La plupart des fédérations sont vertueuses. Mmh. Ils vous accueilleront à bras ouverts. Vous voulez arbitrer, déjà, c'est rare. Vous êtes une femme, ils en ont besoin, c'est encore plus rare, mais les chemins s'ouvrent à vous. On est vraiment dans la meilleure période du développement de l'arbitrage féminin et il ne faut pas avoir peur. Vous n'aurez pas plus de sexisme dans le monde du sport que vous aurez dans le monde du travail ou dans votre propre famille.
Et comment réagir si jamais elles sont confrontées à ça?
Il y a plein d'instances. On a du mal, hein. En plus, on est dans un monde du sport. Le monde du sport, c'est un monde de la performance. Je l'ai vécu, hein. Se dénoncer en tant que victime, c'est se mettre en dehors de la performance sportive. Mmh. C'est ça qui est dur. Mais il y a plein d'instances. Même au niveau départemental, peu importe, vous avez des référents. Maintenant, il y a des référents mixité, il y a des référents féminisation dans toutes les fédérations. Et il faut s'appuyer sur ces personnes. On est là pour avancer tous dans le même... dans le même sens, on est tous dans le même bateau. Et surtout, mesdames, vous n'êtes pas seules. Vous n'êtes pas seules. Et peut-être que ça sera dans un autre sport que vous trouverez, alors on peut dire, un mentor, une mentor. Mais restez pas dans votre coin. C'est le collectif, hein. Qu'il soit féminin, masculin, mixte, c'est le collectif qui fait la force de la performance.
Donc, j'espère que le message sera entendu. Pour clôturer cet épisode, merci beaucoup pour tout ce que tu dis. C'est vraiment hyper intéressant. Je trouve que d'avoir ton point de vue, c'est très éclairant. Je finis toujours le podcast par la même question. C'est si tu devais donner la définition de ce qu'est une championne pour toi, quelle serait cette définition?
La championne, c'est celle qui se met des objectifs atteignables et qui les atteint au fur et à mesure. Make your own Olympics. C'est pas forcément les Jeux Olympiques. Ça peut être votre championnat départemental de curling.
Super. Bah merci beaucoup Charlotte.
Merci Cléo.
Merci pour ton temps, merci pour cet épisode. J'espère que ça donnera envie et que ça créera aussi des vocations malgré le discours, le vrai discours, parce que voilà, hein, je veux dire, tu n'enjolives pas ça et c'est ton parcours, sachant que tous les parcours ne sont pas le même non plus. Donc vous ne serez pas forcément confronté non plus à du sexisme à un moment donné si vous vous lancez là-dedans. Et c'est important aussi de le dire et qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et qu'on a besoin des femmes dans l'arbitrage.
On a super besoin des femmes, mais partout, dans toute
partout,
la société.
Bien sûr, bien évidemment.
Non, mais c'est, prenez votre place, mesdames.
Tout à fait. Voilà, on va finir là-dessus. Prenez votre place. Merci beaucoup, Charlotte. Et puis, écoute, on va t'écouter avec attention sur les matchs de hockey.
Oui,
aussi.
Il en reste encore, masculin et féminin. Dernière semaine, c'est la semaine des finales.
Super. Bah, merci beaucoup, Charlotte. Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Merci.
40-0.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.